Vous écoutez RTL.
RTL.
Oh, c'est bien les dictionnaires, parce qu'il y a plein de mots, il y en a quelques-uns qui sont très jolis. Aquarium, récipient dans lequel on entretient des plantes et des poissons. Remarquez, on dit bien qu'on peut y mettre des patates et des clés de douze.
Quelle curiosité, t'as fait la défaut.
Franchement, il y en a qui sont fastos, je suis pour aller les virer, moi, j'ai le monde.
Jusqu'à 22h.
Boulangiste. Oh, je dis boulanger, comment vous dites vous? Partisan du boulangisme. Ben, j'aime autant. Non, non. J'avais tout bousculé, cette histoire. Alors après, on serait allé chez le bouchiste. Et alors, du coup, hop, chez le droguier.
Denis Bonnec, Thomas Huguet.
Quand Muriel Robin feuillait le dictionnaire, qu'est-ce que c'est bon, on en a d'autres pour elle, tiens.
Oui, dans son dernier spectacle, elle faisait beaucoup de sketchs sur les expressions de la langue française, poser un lapin, etc. Et c'est du bonheur pur.
Ubérisation, gif, bisounours, hipster. Voici quelques-uns des nouveaux mots du Petit Larousse illustré 2018. Bonsoir Karine Girac-Marigné.
Bonsoir.
Soyez
bonsoir.
La bienvenue, vous êtes directrice du département dictionnaire et encyclopédie aux éditions Larousse et vous allez nous faire découvrir finalement les secrets du dictionnaire, comment ça se fabrique. Alors ce Petit Larousse illustré 2018 sort en partenariat avec RTL parce qu'on aime les mots dans la station, on les utilise beaucoup. Chaque année, il y a des mots qui sont ajoutés et d'autres retirés, enfin c'est ce que j'imagine. Déjà, combien de mots entrent dans cette nouvelle version?
150 nouveaux mots, sens et expressions entrent dans cette nouvelle version du Petit Larousse.
C'est parce que vous avez trouvé 150 mots et expressions chouettes à mettre ou c'est parce que chaque année vous vous dites, bon allez, faut qu'on en trouve 150 parce que c'est comme c'est pour regarder, je sais pas, la taille de notre dictionnaire un peu costaud.
C'est effectivement un quota qu'on s'impose. On essaye en moyenne de pas dépasser ces 150 nouveaux mots, sens et expressions parce qu'en fait, ce qu'on veut absolument éviter, c'est l'effet de mode. Alors c'est vrai que la langue française est très riche, elle s'enrichit chaque année, hein. Il y a à peu près 3000 mots qui sont créés par an et donc on s'oblige à n'en sélectionner que 150 pour être sûr que les mots qu'on va sélectionner sont vraiment des mots très utilisés par la majorité des francophones et pour être sûr aussi que demain et dans 10 ans ils seront toujours très utilisés.
Oui, qui ne vont pas sortir du dico l'année après, quoi.
Exactement.
C'est déjà arrivé ça?
Non, ça n'est pas arrivé parce que justement jusqu'à présent on a toujours essayé de faire attention à éviter ces effets de mode.
Et ceux qui sortent? Pourquoi on sort un mot? Parce qu'il est...
Alors en fait, il n'y a pas de mot qui sort dans le dictionnaire. Voilà, ça c'est souvent les gens pensent qu'on en fait sortir aussi chaque année. Mais d'un millésime sur l'autre, on ne fait disparaître aucun mot, puisque la langue a plutôt tendance à s'enrichir, à évoluer. Mais par contre, on a besoin des mots qu'on utilise peut-être un petit peu moins, mais on en a toujours besoin quand on les rencontre dans nos lectures. Mmh. Il faut qu'on sache à quoi correspond un mot du Moyen-Âge ou un mot de la Renaissance.
C'est joli, alors... vous dites millésime, un peu comme pour les vins.
Exactement.
Pourquoi?
Oui, on aime bien cette image.
Les mots sont précieux et ils vieillissent, ils se patinent.
Oui, et aussi parce que les mots ont une saveur et en fait chaque millésime du Petit Larousse reflète la société française et francophone et ses évolutions. On sent vraiment d'une année sur l'autre et quand on, par exemple, quand on fait un bilan rétrospectif des 10 ou 20 dernières années et des mots qu'on a rentrés lors des 20 dernières années, on a vraiment en fait une sorte de photographie des préoccupations françaises et des inventions.
De l'actualité aussi.
De l'actualité aussi, tout à fait.
Donc en fait, il y a différentes familles dans les nouveaux mots, si je vous écoute bien, c'est ça? Il y a quoi, la famille, on va dire, scientifique, geek,
nouvelle
technologie, c'est ça?
Oui. Il y a évidemment aujourd'hui tout ce qui concerne aussi l'écologie, l'environnement.
Oui.
Il y a la famille un petit peu politique. Il y a également tout ce qui concerne les arts, tout ce qui concerne la médecine, parce que ça, c'est une catégorie en fait qui est très riche en nouveaux mots. On a également des choses qui sont plus sociétales un petit peu.
Par exemple, ubérisation. C'est sociétal comme
c'est entre
comme
la
nom.
Société et puis également l'économie, parce qu'en fait c'est vraiment le fait qu'une société ait rompu en quelque sorte un équilibre économique et révolutionné une sphère économique.
Écosystème, c'est un mot qui vient d'entrer aussi dans la version 2018 du Petit Larousse illustré.
C'est un nouveau sens qui vient de rentrer.
Un nouveau sens.
Voilà, parce qu'en fait on fait rentrer des nouveaux mots qui sont vraiment des pures créations de notre langue, mais également des nouveaux sens, c'est-à-dire qu'on peut un mot s'enrichir d'un nouveau sens. Mmh. C'est le cas par exemple cette année de continent de plastique que l'on a fait rentrer. Donc au mot continent, on a un nouveau sens continent de plastique et qui reflète une vraie préoccupation que nous avons.
Il y a aussi le mot hipster qui est entré.
Ah, les barbus.
On avait consacré une émission de la curiosité l'année dernière.
Les barbus bien habillés.
Voilà, qui aiment l'écologie.
Tout pas Thomas, si vous êtes bien habillé.
Merci, c'est gentil. J'aime l'écologie, mais en revanche, non, la barbe, je la laisse aux autres. Je pourrais, mais ils sont tellement nombreux que je me dis que je vais finir par devenir le seul glabre dans cette société française.
Alors, c'est marrant parce que pour moi, justement, hipster, c'est juste une mode. C'est des gens qui ont une petite barbe, qui roulent à vélo. C'est vraiment horrible ce que je dis parce qu'il y a des gens qui vont viser alors qu'on peut tous porter une barbe. Bon, bref, et avoir les pantalons un peu courts, pour moi, c'est une mode. C'est pas une révolution. Pour vous, au Petit Larousse, c'est une tendance qui c'est même pas une tendance, c'est
ça mérite de rentrer quoi.
Voilà, c'est une typologie de personnage.
Oui, parce que c'est un mot qui est utilisé. C'est un mot qu'on a repéré il y a déjà 4 ans. Ouais. On a attendu avant de le faire rentrer pour être sûr que justement ça soit pas un effet de mode. Mais en fait, il s'est avéré que ce mot a été de plus en plus utilisé sur ces 4 années. Et du coup, aujourd'hui, une majorité de gens, peut-être n'en connaissent pas le sens, mais en tout cas, l'ont lu, l'ont vu, en ont entendu parler, se disent mais qu'est-ce que c'est au fond un hipster?
Ah oui, donc il y a un devoir de décryptage.
Exactement, il faut définir ce mot. Donc c'est pour ça. Nous, vraiment, les deux critères que l'on a pour faire rentrer un mot dans le Petit Larousse, c'est d'une part la fréquence de l'usage et d'autre part le fait que cet usage soit partagé par une majorité de Français.
Ça démarre combien de temps à l'avance le choix de ces nouveaux mots pour qu'ils soient
plus
disponibles comme ça à la sortie fin juin?
Plus d'un an à l'avance, en fait.
Avec quoi? Avec un comité de sélection? C'est uniquement des salariés de Larousse ou alors vous allez chercher des personnalités extérieures?
Alors, on est très nombreux à travailler. En fait, on est une cinquantaine de personnes et donc on a effectivement des conseillers externes qui sont spécialisés dans des disciplines du savoir, par exemple des médecins spécialisés en médecine, des scientifiques. Et puis, on a également en interne deux types de métiers, des gens qui sont terminologues ou encyclopédistes, qui sont spécialisés dans certaines disciplines. Et puis, des lexicographes qui sont spécialisés, eux, dans l'art de faire des définitions.
Et pour les personnalités, comment ça se passe?
Pour les personnalités, alors on n'a pas tout à fait les mêmes critères, on n'a pas le critère de l'usage partagé. Ce qui compte pour une personnalité, c'est qu'elle ait beaucoup œuvré à la culture générale et dans sa discipline, qu'elle ait pu exceller et qu'elle ait marqué notre société et notre siècle par son talent.
Alors, est-ce qu'à votre avis, Emmanuel Macron est dans le Petit Larousse?
Est-ce qu'ils ont eu le temps
2018, est-ce qu'ils ont eu le temps? Le suspense est à son maximum. À tout de suite, les curieux.
Vous écoutez RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Il est épais, passionnant, inépuisable. On découvre la fabrication du dictionnaire. On a choisi de vous parler du Larousse avec Karine Girac-Marinier, directrice du département dictionnaire et encyclopédie aux éditions Larousse. Vous êtes là aussi parce que c'est une édition un peu particulière. On peut le dire d'un mot, on y reviendra. Pourquoi?
Oui, c'est l'édition du bicentenaire de Pierre Larousse, puisqu'on fête en cette année la naissance de Pierre Larousse en 1817, bon, en octobre 1817.
Aussi pour ça.
Et on racontera son histoire, évidemment,
à
Pierre Larousse
dans
quelques instants.
Très curieux de savoir qui il était. Alors, on a, pendant la courte pause, ouvert le dictionnaire à la page MAC et on a cherché s'il y avait un dénommé Macron Emmanuel. Ah, je vois
regardez
sa photo.
Y a sa bobine,
donc
là.
Vous avez eu le temps. Comment vous avez fait en fait?
On a bloqué l'impression du Petit Larousse. En fait, ce qui s'est passé, c'est que 95% du Petit Larousse était imprimé et 4 cahiers ont été bloqués. Donc les cahiers qui contenaient la notice d'Emmanuel Macron, le cahier France, puisque à la fin de l'article France, on a la mention du président de la République.
Ouais.
Et puis également le tableau des présidents de la République et la planche des président de la République qui est dans la partie non commun du Petit Larousse.
Parce qu'il n'y était pas jusqu'à présent.
Non.
Évidemment. Sinon, il aurait juste suffi de changer un tout petit peu sa fiche signalétique.
Je vous lis sa définition quand même.
Allons-y. Parce que
Macron Emmanuel, ami,
homme
1977,
qui marche sur l'eau. Non, c'est pas ça.
Non, homme politique français, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique de 2014 à 2016. Sous la présidence de François Hollande, il fonde en 2016 En Marche, mouvement situé au centre de l'échiquier politique. Il est élu président de la République en 2017. C'est sobre? Ce sont des définitions sobres?
Ce sont toujours des définitions effectivement très sobres, très synthétiques. Il faut avoir l'essentiel de l'information et sans jugement. Le but du Petit Larousse, hein, c'est d'apporter de l'information, mais de ne pas émettre de jugement.
Est-ce que vos nouveaux mots ou vos nouveaux entrants, alors j'imagine que pour Emmanuel Macron, la réponse est oui, est-ce que ce sont les mêmes que ceux de votre principal concurrent, le Robert?
Pas forcément. Il se peut qu'il y en ait quelques-uns de communs, mais pas forcément. Non.
Parce que ce ne sont pas les mêmes personnes qui choisissent, qui sélectionnent, tout simplement.
Tout à fait. Les équipes sont tout à fait différentes. Donc, non.
Vous espionnez pas pour savoir quels nouveaux mots ils vont sortir?
Et je vais vous étonner, mais en fait, non, pas du tout. En fait,
parce il n'y a pas de compétition à celui qui va entrer
non.
le.
Non. Et puis surtout, en fait, je pense qu'on est tellement pris dans la réalisation de notre dictionnaire qu'on a peu de temps pour faire autre chose.
Alors, combien un dictionnaire contient-il de mots En tout cas, votre dictionnaire, le Petit Larousse.
Alors, le Petit Larousse contient 63 000 mots dans la partie nom commun. Et donc, c'est beaucoup. C'est beaucoup de mots.
63 000 mots, et la langue française en contient combien ?
La langue française, en globalité, peut en contenir 200 000, plus de 200 000. Et donc, le choix dans le Petit Larousse s'est toujours porté sur le fait que ça devait être l'usage qui primait. Donc, il faut qu'on trouve dans le Petit Larousse essentiellement des mots que l'on va utiliser ou que l'on va rencontrer dans nos lectures. Donc ça, c'est vraiment le critère principal.
Et nous, on utilise combien de mots chaque jour ?
Alors, ça dépend des gens. Ouais. Je dirais qu'en moyenne, on utilise de 10 000 à 40 000 mots par personne.
Donc, 40 000 mots, c'est les gens qui ont vraiment des...
Qui sont très érudits.
Qui sont très érudits, oui, et qui ont des mots très, très pointus. Qu'on trouve
les
bonnecs. Un peu... Les bonnecs.
Les bonnecs, ouais. Les bonnecs sont à 40 000.
C'est vrai ? Oh, c'est gentil.
Oh, vous avez une belle langue française, Sidonie.
Ah bon, c'est gentil.
Bah,
c'est
prenez le compliment. Hein,
parce ah, bah, qu'il y en
a... Ça n'arrive pas si souvent, donc
non,
en voilà un. Prenez-le.
Je cherche où le ranger.
Profitez-en. Est-ce qu'il y a des gens qui sont complètement fous de dictionnaires ? Des fanas absolus, des.
Oui, qui les connaissent
par cœur, qui les épluchent, qui.
Ah oui, il y en a plusieurs. On a un célèbre dicopathe en France.
Dicopathe.
C'est le mot qu'il a créé, qui est Jean Pruvot, qui est un spécialiste des dictionnaires. Mais oui, il y a beaucoup de personnes qui aiment beaucoup les dictionnaires. Alors, il y a aussi tous les gens qui adorent faire des jeux de lettres et qui se servent du dictionnaire pour vérifier qu'un mot est bien dans la langue française et peut être utilisé dans un jeu. Mmh. Mais c'est vrai qu'il faut savoir que la langue française est une vraie passion en France. On a cette chance d'adorer les mots et de débattre beaucoup sur les mots.
Et vous prêchez des convaincus, parce que c'est l'une de nos passions. On adore découvrir des nouveaux mots, le sens des mots, travailler la sémantique avec nos invités.
Et pourtant, il y a souvent des gens qui parlent bien anglais, par exemple, qui disent qu'en français, on n'a pas beaucoup de mots pour décrire les choses, et qu'en anglais, il y a beaucoup plus de vocabulaire. Vous êtes d'accord avec ça ?
Je crois que c'est très différent. Disons que c'est plutôt que le français utilise plus de périphrases que l'anglais. C'est plutôt ça la différence à mon avis. Mais c'est pas tellement un nombre de termes, parce que je pense que le français est beaucoup plus riche en nombre de termes.
Est-ce que vous êtes d'accord de nous accueillir chez vous et d'assister à la fabrication du dictionnaire, ces fameuses réunions où les équipes se concertent pour dire si ce mot mérite d'entrer dans le Petit Larousse ? Ça se passe comment ? Il y a quel poste, à quel bureau ?
Alors, il y a plusieurs réunions par an déjà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, on commence par observer les évolutions de la langue. On les note dans une base informatique. Et ensuite, on va se réunir parce que souvent, au début de l'année, on peut avoir 2000 à 1000 mots. Mmh. Et donc, il faut qu'on fasse 3 ou 4 réunions, voire 5 réunions en cours d'année pour arriver à notre nombre de 150 nouveaux mots sans expression.
Vous virez au fur et à mesure, c'est ça ?
Voilà, on sélectionne de plus en plus drastiquement.
Ouais. Mais comment vous faites pour sélectionner ? Parce que vous disiez tout à l'heure que vous évaluiez la fréquence de l'usage. Mais c'est un ordinateur qui fait ça en scannant des articles, ça se passe comment ?
On peut s'aider des ordinateurs, tout à fait, on les utilise pour ça, c'est pour le critère quantitatif de l'usage. Et le critère qui pour nous est quand même très très important en parallèle, c'est le critère qualitatif, le fait que cet usage soit partagé. C'est-à-dire qu'un mot ne va pas rentrer dans le Petit Larousse s'il n'est utilisé que par une communauté. Par exemple, les médecins ou des scientifiques ou les geeks. On va attendre que vraiment le mot passe dans le grand public. Et pour ça, on utilise beaucoup les médias. La radio, la télé, la presse écrite, généraliste, parce que quand les journalistes utilisent des mots, c'est le signe que le mot commence à rentrer vraiment dans le grand public et qu'il faut le définir.
Je pense à une interview qu'on a faite sur la blockchain, qui est une nouvelle manière de... Fou, c'est compliqué.
Ah là, je vous laisse. Hein.
De payer.
Oui, c'est en
Internet
économie.
Et d'échanger des biens. Je me demande si
vous regardiez. Je crois qu'on l'a rentré l'année dernière, mais il vaut mieux regarder.
Ah, vous êtes fort.
Pendant que Sidonie cherche, est-ce que ça vous arrive d'avoir des regrets ? C'est-à-dire vous dire, ah tiens, ce mot, on l'a retoqué l'an dernier et finalement, on aurait dû le prendre. Du coup, on est sûr qu'on va le récupérer dans cette édition ?
Effectivement, on peut se dire à ce mot, il a pris de l'importance, donc on le mettra l'année prochaine. Des regrets, je pense pas, parce que voilà, on avance et on se dit toujours que si le mot est important, il va rentrer.
Donc, alors figurez-vous que la blockchain n'y est pas encore.
Alors peut-être que j'ai dévoilé un mot futur.
Peut-être. Il faut dire qu'on l'utilise pas beaucoup.
Parce que
beaucoup
vous travaillez.
Non,
quotidien.
Mais notre conseiller économique nous l'a remonté. C'est un mot qu'on a eu en réunion.
Vous travaillez déjà sur la prochaine édition, évidemment.
Ah,
peut-être qu'on a eu un scoop dans la curiosité. Allez, on va continuer de découvrir comment on fabrique un dictionnaire. Restez avec nous sur RTL.
Comme vous, ils sont curieux. Vous écoutez RTL.
RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Consonne. G. Voyelle. U. Voyelle. E. Consonne. C.
RTL.
9 lettres. Avec enculage.
Enculage.
Oui, mais des mouches exclusivement.
jusqu'à 22h.
Moi, j'ai un dictionnaire très pudique qui n'admet pas ces mots. Mais heureusement, Bertrand l'a.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Je veux dire que l'enchaînement du thème de l'émission de Flavie demain et de la mise en œuvre d'André Facetta, il fallait oser quand même.
On ne recule devant rien.
Non.
Mais c'est une bonne question. Il y a aussi des mots familiers, des mots d'anatomie. Il n'y a pas de tabou dans le dictionnaire et c'est pour ça qu'on le feuillette dans la curiosité à l'occasion des 200 ans du Petit Larousse illustré. Nous sommes avec Karine Girac-Marinier qui est directrice du département dictionnaire et encyclopédie aux éditions Larousse. Alors du coup, avec notre réalisateur André Facetta, en préparant cette émission, on a cherché ce mot parce que c'est un mot qui fait partie de la vie. On a cherché dans votre dictionnaire s'il y avait le mot enculage. Il n'y est pas. Pourquoi ? Est-ce qu'il existe dans un autre dictionnaire ?
Écoutez,
on a cherché, il existe dans le Robert, donc on peut répondre à la question. Mais alors, c'est quoi le critère ? C'est quoi ? C'est un mot qui va être trop osé, ordurier ? C'est quoi le critère pour ces mots-là qui nous font rire, évidemment ?
Alors, effectivement, le dictionnaire accueille des mots du registre familier, parce que c'était la volonté notamment de Pierre Larousse, d'avoir vraiment de refléter la langue française dans sa globalité. Donc il fallait des mots des régions, des mots de la francophonie, mais également des mots du vocabulaire familier. C'est pour ça qu'on note toujours le registre de langue. On précise bien si c'est familier, si c'est vulgaire, ou si c'est du registre figuré, par exemple.
Ça veut dire que vous le décidez, ça aussi, quelque part, si un mot est entre familier et vulgaire, par exemple ?
On ne le décide pas, parce qu'en fait, on le sait.
C'est l'usage.
Oui, c'est un usage, donc en fait, on entérine plutôt l'usage là-dessus, mais par contre, ça nous semble très important de l'indiquer pour que les gens l'utilisent à bon escient.
Alors, parmi l'équipe qui travaille à la fabrication de ce dictionnaire, il y a des noms, d'ailleurs, qu'on peut chercher aussi dans le dictionnaire, c'est la mise en abîme. Par exemple, vous travaillez avec des lexicographes.
Oui.
Que font-ils ?
Alors, les lexicographes sont ceux qui font vraiment les définitions que vous trouvez dans la partie des mots du dictionnaire. Ils vont donc définir à la fois des mots qui sont purement des mots de langue française, par exemple, un sens figuré, va être défini par des lexicographes, et ils retravaillent toutes les définitions qui viennent des conseillers externes et également des encyclopédistes chez Larousse et qui eux ont un domaine un peu de prédilection en fonction des disciplines qu'ils suivent. Par exemple, il y a des gens qui sont plutôt spécialisés en sciences, d'autres en arts. Et donc nos lexicographes vont retravailler ces premières définitions qui ont été faites par les terminologues.
Et alors, il y a une mise en abîme. J'imagine le lexicographe qui est en train d'écrire la définition de lexicographie, vous voyez ?
Ah oui, là,
bah oui, ça n'arrête jamais. Discipline dont l'objet est la connaissance et l'étude des mots et des expressions d'une langue déterminée et qui vise participation à l'élaboration des dictionnaires. J'imagine partic. Point, c'est ça ?
Oui, particulièrement.
Particulièrement, oui, moi je n'ai pas compris.
Mais
vous êtes obligé de mettre des abréviations de temps en temps, parce que sinon il n'y a plus de place.
Tout à fait, et on a une table des abréviations au début du dictionnaire pour bien expliquer cet usage.
Oui. Alors, c'est intéressant justement à propos de place, c'est un peu comme les tweets, il y a 144 signes, ça fonctionne comment la taille d'une définition dans le Petit Larousse illustré ?
Alors, c'est un peu selon l'importance du mot qu'on doit définir ou de la personnalité dont on doit écrire la notice. On essaye évidemment d'être assez synthétique, parce que effectivement la place dans le dictionnaire est quand même relativement réduite.
Ah mais on a le droit à toute une colonne si on veut, si on a vraiment un mot qui a plein de définitions.
France ou États-Unis, évidemment, vous avez plus d'une colonne d'ailleurs. Voilà, à Napoléon, vous avez une colonne, je pense.
Et le choix des illustrations, comment le faites-vous ?
Alors,
les photos,
essaye,
les cartes.
Alors, c'est très important puisque c'est un dictionnaire illustré. Donc, effectivement, chaque région française a sa carte. Mmh. Chaque région du monde, chaque pays a sa carte. On essaye d'illustrer également tous les grands hommes. Donc, on a des portraits de tous les grands rois de France, des philosophes, etc. On essaye de mettre évidemment le plus possible d'images parce que ça permet en fait à différents publics de rentrer dans le dictionnaire et notamment aux enfants ou aux adolescents.
Vous écoutez RTL.
On pourrait imaginer un dictionnaire des noms propres en 2030, voir ce que nos stars préférées seront devenues, hein ? Au hasard, A, B, Bigard, Jean-Marie, poète français romantique,
RTL,
BHL, philosophe marié à Barbie Casse-Noisette.
Jusqu'à 22h. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Le duo Mylène Farmer et Seal, on a entendu FR David aussi tout à l'heure, World, et puis un extrait de sketch de Stéphane Guillon pour lancer notre dernière séquence consacrée à la fabrication du dictionnaire, la publication du Petit Larousse Illustré 2018. On fête les 200 ans, le bicentenaire de la création de ce dictionnaire avec Karine Gignac-Marigné, qui est directrice du département dictionnaire et encyclopédie aux éditions Larousse. Alors avant de raconter la vie du fondateur, Pierre Larousse, j'ai encore une petite question sur vos choix et notamment sur les anglicismes. Comment faites-vous pour éviter qu'il n'y ait trop d'anglicismes parmi les 150 nouveaux mots que vous choisissez chaque année?
Alors, on essaye de faire en sorte qu'il n'y en ait pas trop. Maintenant, il faut bien voir qu'on est parfois obligé d'en mettre parce que quand en France, on n'a pas un mot autre, en tout cas un mot français qui désigne, par exemple, une nouvelle technologie et pour laquelle il existe un mot anglais, on est obligé de mettre le mot anglais. C'est la manière dont on marche parce qu'il faut absolument avoir le mot et définir le mot qui sert à désigner cette nouvelle technologie.
Bien sûr, c'est un service que vous offrez à vos lecteurs. Et est-ce que les deux versions d'un mot peuvent cohabiter?
Oui.
C'est-à-dire mail et courriel, par exemple.
Tout à fait, les deux sont effectivement dans le dictionnaire. Mm-hmm. Quand il y a une recommandation officielle des organismes de langue française, on met cette recommandation dans la définition du Petit Larousse. Et puis, bien entendu, en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, il y a beaucoup de mots français qui vont remplacer les mots anglais. Donc, dès qu'on le peut, on ajoute ce mot français.
Alors l'édition 2018 de Petit Larousse illustré en partenariat avec RTL est celle du bicentenaire et il y a 200 ans naissait l'inventeur du Larousse, Pierre Larousse. Qui est-il? D'où vient-il? Et quel était son métier?
Alors, Pierre Larousse était bourguignon. Hein. Déjà, il vient de Bourgogne, un petit village qui s'appelle Toussy, qui est un très joli village. Et en fait, ses parents, son père, je crois, était forgeron. Et Pierre Larousse adorait les livres. Ça, c'était vraiment le point qu'il faut retenir de son enfance. Il dévorait les livres, ses copains lui en apportaient en permanence. Et donc, il a voulu être instituteur. Il est monté à Versailles pour faire suivre des études pour être instituteur. Il est revenu dans son village natal de Toussy pour enseigner et au bout de 2 ans en fait il s'est rendu compte que la méthodologie pour enseigner aux enfants ne lui semblait pas être efficace. En fait, il trouvait qu'on apprenait aux enfants à apprendre par cœur, mais qu'on n'apprenait pas du tout aux enfants à réfléchir. Et donc, il est remonté à Paris. Il a vendu ce qu'on appelait sa charge, en fait, d'instituteur. Il est monté à Paris. Pendant 8 ans, il a étudié à la Bibliothèque Sainte-Geneviève, à la Sorbonne, au Collège de France. Et au bout de ces 8 années d'études très approfondies, il a monté sa maison d'édition et il a commencé à faire des ouvrages, au départ, plutôt de grammaire, des exercices d'orthographe et de grammaire pour les enfants. Et vraiment, son idée, hein, je le cite là, c'était vraiment d'accoutumer les enfants à penser par eux-mêmes, de les accoutumer aussi à trouver des idées dans leur propre vocabulaire et aussi à trouver des jugements en permanence.
Et puis un jour, Pierre Larousse va rencontrer Augustin Boyer et ça va changer sa vie, un peu la nôtre aussi. Racontez-nous pourquoi.
Oui, alors il rencontre Augustin Boyer et ensemble, en fait, ils fondent la maison. Augustin Boyer,
éditeur aussi,
tout à fait.
Homme de lettres.
Homme de lettres aussi. Et ils fondent tous les deux la librairie Boyer et Larousse. Et effectivement, ils vont travailler de longues années ensemble. Et en 1856, Pierre Larousse publie pour la première fois donc, le nouveau dictionnaire de la langue française, qui est vraiment l'ancêtre du Petit Larousse. Et c'est très étonnant quand on voit ce dictionnaire, parce qu'en fait, on a déjà l'ossature du Petit Larousse, la partie des noms communs, les célèbres pages roses avec les citations latines et grecques, et ensuite, les noms propres.
Mais alors pourquoi, pardon, je suis un peu perdu, pourquoi en fait le bicentenaire? Parce que là, ça ne correspond pas dans mes dates, moi.
De la naissance de Pierre Larousse.
D'accord.
En fait, le bicentenaire vraiment de notre fondateur, Pierre Larousse.
Moi, j'avais compris que c'était le bicentenaire
du Larousse.
Ok,
non,
donc
non.
Ça y est, maintenant je me suis recadré, je suis dans l'ordre. Pierre Larousse qui meurt en 1875 sans avoir fini son grand œuvre, c'est ça?
Alors oui, effectivement, il n'a pas tout à fait fini le Grand Dictionnaire Universel, hein, qui est un énorme travail, c'est cette grande encyclopédie universelle qu'il va créer. Il en a la lettre T quand il décède, ou plus exactement la lettre T chez l'imprimeur et est en train d'être imprimée. Et en fait, ça va être sa veuve, Pauline, qui va finir ce grand dictionnaire avec des collaborateurs Larousse et également avec le neveu de Pierre Larousse.
Alors comment on passe de ce grand dictionnaire à ce petit Larousse illustré et presque un livre de poche à côté, évidemment, celui qu'on feuillette aujourd'hui.
Alors, c'était deux projets différents. C'est-à-dire que le petit Larousse est vraiment issu du nouveau dictionnaire de la langue française, qui à l'époque faisait 700 pages, qui aujourd'hui fait 2000 pages, qui à l'époque faisait la moitié en termes de format et qui, vous voyez, a beaucoup grossi. Et le grand dictionnaire universel, c'était vraiment, ça s'appelait dictionnaire, mais c'était vraiment une encyclopédie avec une partie dictionnaire, c'est-à-dire que pour chaque mot, il y avait vraiment une définition, une étymologie, il y avait une étude de la langue et ensuite des articles encyclopédiques très complets.
Il faut quand même, là on est presque au bout de cette interview, qu'on vous pose une petite question qui fâche. Est-ce que ça a encore du sens d'avoir un dictionnaire papier à l'ère d'Internet et de Wikipédia ?
Ben, je pense que oui. Je pense que, d'ailleurs, les ventes nous le prouvent. Oui. C'est un ouvrage qui est important pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un bel ouvrage. On essaie de le rendre de plus en plus beau et agréable à feuilleter.
Moi, j'adore ça, hein, feuilleter un dictionnaire, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'on est de plus en plus quand même dans une connaissance dématérialisée, une efficacité des moteurs de recherche.
On peut chercher un mot dans un moteur de recherche.
Ça va à toute vitesse, quoi.
Mais si vous voulez, ce qui est intéressant dans le dictionnaire, c'est qu'en cherchant le mot dans le dictionnaire, vous allez figer l'orthographe du mot beaucoup plus facilement que quand vous allez sur les moteurs de recherche où là vous avez la complétion automatique qu'on fait rentrer cette année et qui vous tapez trois lettres et l'ordinateur va vous donner la fin du mot. Donc vous ne retenez pas du tout l'orthographe. Le dictionnaire, en cherchant des mots et notamment quand les enfants l'utilisent, c'est pour ça que c'est important parce qu'ils vont figer leur orthographe et du coup ça aide à être bon en orthographe. Ça c'est la première partie. La deuxième chose, c'est que c'est vraiment une somme en fait de connaissances. Vous avez toute la culture générale résumée en 2000 pages. Vous avez tous les personnages historiques importants, vous avez des très belles photos, vous avez des cartes du monde, donc, et vous avez tous les mots les plus importants de la langue française, avec à chaque fois, pour les mots importants, non seulement leur définition, des exemples d'emploi, les différents registres de langue, mais également des encadrés encyclopédiques qui vont vous dire, par exemple, comment fonctionne un organe du corps humain, ou qu'est-ce qu'une comète, etc.
Merci infiniment, Karine Girac-Marinier. Le Petit Larousse illustré 2018 est disponible. Et ça coûte combien, tiens, un dictionnaire ?
Moins de 30 euros, 29,90 €.
Bonne nouvelle, merci beaucoup.
Merci.
Vous écoutez RTL.